Sous les événements qu'on peut observer et qui occupent l'essentiel de notre attention, à la racine, il y a des causes, puisque rien n'arrive à partir de rien. Il y a des dynamiques, des règles, des structures, des tendances, qui souvent nous échappent et qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'analyser. Ce sont ces sous-sols qui m'intéressent dans Sismique, parce que je veux essayer de nous faire mieux comprendre pourquoi les choses arrivent et donc ce qu'il faudrait changer en profondeur pour que les trajectoires puissent bifurquer. Et bien caché, il y a ce qu'on appelle les structures de l'ombre. Ce jeu qui n'aime pas se montrer et qui pourtant pèse lourd dans les affaires. Ces décisions prises à l'abri des regards, ces relations et ces liens qui influent sur la vie politique, sur le business, sur la géopolitique, et qui doivent être mieux cernées si on veut être moins naïf. Je n'ai encore quasiment jamais abordé ces questions dans le podcast et je vais y remédier. Et je commence avec un invité spécial qui, depuis des années, fait un travail remarquable pour nous aider à ouvrir les yeux sur le crime organisé et les mafias, les organisations qui n'aiment pas la lumière. Jean-François Guéraud est commissaire général de la police nationale, diplômé de Sciences Po Paris, de l'Institut de criminologie et docteur en droit. Il est un spécialiste réputé du crime organisé, ce qui lui a valu de recevoir le prix Giovanni Falcone en 2014. Il a écrit plusieurs ouvrages, mais dans cet épisode, nous parlons presque exclusivement de son dernier livre intitulé « Les mafias et la Maison Blanche, un secret si bien gardé de Roosevelt à nos jours ». Jean-François Guéraud a mené 10 ans d'enquête afin de nous révéler les liens étroits existants depuis les années 20 entre la mafia italo-américaine et les présidents des États-Unis. Se plonger dans l'histoire, c'est prendre du recul sur le présent. Et les histoires dont nous parlons dans cet épisode illustrent à merveille à quel point nous sommes souvent ignorants des causes profondes, à quel point il est indispensable de gratter sous la surface des choses pour pouvoir gagner en lucidité et donc en pouvoir d'action. Je suis Julien Levorex, Sismique est une enquête sur les grands enjeux et sur les mécaniques de notre époque. Je vous invite comme toujours à faire preuve d'esprit critique, à ne pas forcément prendre tout ce qui est dit pour argent comptant et à creuser par vous-même les sources. Ouvrez les oreilles, suspendez un temps votre jugement, pensez par vous-même, mais aussi contre vous-même. Et je vous invite à méditer sur cette phrase de Donella Meadows. La ressource la plus rare n'est ni le pétrole, ni le minerai, ni l'air pur, ni le capital, ni le travail, ni la technologie. C'est notre capacité à nous écouter, à apprendre les uns des autres et à rechercher la vérité plutôt qu'à avoir raison. Bonne écoute.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
Bienvenue sur Sismique.
Rien de tout ça n'est réel.
Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel?
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
Bonjour Jean-François Guéraud.
Bonsoir.
Bonsoir, oui, effectivement, parce qu'on enregistre cette interview en soirée, ce qui m'arrive pas très souvent. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, me dire ce que vous faites?
Alors, je m'appelle Jean-François Guéraud, ma profession c'est commissaire de police, je suis un commissaire de police un peu âgé, donc j'ai le grade de commissaire général de la police nationale. Et il se trouve que parallèlement à cette vie professionnelle, j'ai toujours mené une seconde vie, une vie parallèle. J'ai un peu enseigné la criminologie et surtout j'écris des livres de géopolitique du crime et de criminologie, donc des ouvrages de sciences sociales.
Et on va parler aujourd'hui de votre dernier livre qui s'appelle « La mafia et la maison blanche ». Enfin, on va parler, on va essayer d'avoir une conversation autour de ce livre. Mais avant, je voudrais comprendre un petit peu mieux comment vous en êtes venu à écrire des livres sur ce que moi j'appelle un peu les structures de l'ombre, sur toutes ces dynamiques cachées, ces structures cachées qui ont une certaine influence sur tout ce qu'on voit émerger, sur les événements du monde, puisque vous avez écrit des livres sur plusieurs sujets, dont on n'aura pas parlé aujourd'hui, mais je mettrai les liens sur le site internet. Voilà, en parallèle de votre métier, comment vous êtes tombé là-dedans et comment vous êtes mis à enquêter vous-même en fait sur ces mécaniques?
Alors, si on fait un petit peu de genèse, il se trouve que vers l'âge de 22-23 ans, j'ai hésité très peu de temps entre rester à l'université. Je me serais destiné certainement à enseigner la science politique et le droit ou l'un ou l'autre. Et puis, l'hésitation, c'était entre donc enseigner à l'université et puis être commissaire de police. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont deux vies très différentes. Et, comme j'ai toujours eu peur de m'ennuyer dans la vie, j'ai opté. Alors, on ne s'ennuie pas forcément à l'université, mais j'ai opté pour un métier qui était très tourné vers les questions opérationnelles, pratiques, et en fait vers quelque chose qui correspondait peut-être plus à ce que je recherchais politiquement, qui est de servir, voilà, servir l'État. Et en fait, quand on sert l'État en France, on sert un intérêt général, voilà. Et ça m'intéressait. Et j'avais envie de comprendre ce qu'étaient les phénomènes de pouvoir, comment fonctionnait l'État de l'intérieur, et puis surtout, participer de la sécurité intérieure de mon pays.
Et donc, ça vous a amené à vous intéresser à pas mal de sujets, donc, dont celui dont on va parler, qui est le lien historique entre le milieu mafieux, la mafia, et le pouvoir politique aux États-Unis. Donc, c'est une enquête qui vous a pris plusieurs années à écrire, à rassembler, puisque vous êtes parti de beaucoup de documents. C'est quoi, une dizaine d'années, c'est
oui,
ça ?
Oui, exactement. Voilà, j'ai fait une dizaine d'années de recherche. En réalité, tout au long de ma vie professionnelle, à chaque fois que j'étais confronté à des faits nouveaux, à des questionnements, j'ai souvent été insatisfait des réponses qui m'étaient apportées, soit de manière institutionnelle, soit par les travaux universitaires. Voilà. J'ai toujours beaucoup lu sur l'histoire des États-Unis et j'ai eu un certain nombre d'étonnements au sens philosophique du terme, hein, au sens où les philosophes grecs utilisaient ce concept. J'ai eu des étonnements sur le poids historique qu'avait la mafia italo-américaine, loin des clichés cinématographiques, mais étonnement sur le poids historique qu'avait cette organisation criminelle dans toute son originalité dans le système américain. Et alors, ce livre est un récit historique, hein, puisque j'ai travaillé une dizaine d'années en lisant de manière aussi exhaustive que possible, à la fois sur la mafia italo-américaine, mais aussi sur les présidents des États-Unis. Et ce livre est un récit donc des relations ayant existé entre la mafia italo-américaine et les présidents des États-Unis de l'entre-deux-guerres à aujourd'hui. Donc on peut le lire comme un livre d'histoire sur les États-Unis, mais il est évident qu'à travers ce livre, c'est aussi en creux, de manière implicite, une réflexion sur l'avenir de la démocratie, sur comment un système démocratique peut s'effondrer, être corrompu de l'intérieur par des organisations criminelles. Et si on pousse la réflexion, ce livre rejoint en fait une des préoccupations de tous mes autres ouvrages, c'est la place tout à fait centrale et incomprise qu'a le crime organisé, les différentes formes de criminalité dans le monde moderne depuis le milieu du XXe siècle.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on part de la première puissance mondiale, qui a eu une histoire extrêmement riche et dont on a beaucoup entendu parler. Donc, il y a beaucoup de références qu'on va aborder, qu'on peut avoir d'une manière ou d'une autre. On a tous entendu parler de Nixon, de Kennedy, de Roosevelt, plus près de nous, d'Obama, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très présent dans notre imaginaire. Donc, c'est intéressant d'avoir une autre lecture. Ce que je tiens à préciser aussi, c'est que j'ai été bluffé, en fait, par la somme de détails absolument incroyable. C'est pas possible de retenir tous les protagonistes qu'il y a, mais on voit bien qu'il y a une recherche extrêmement dense, extrêmement profonde. Il y a des pages et des pages de références à la fin. Tout est sourcé, il y a une quantité de références à des ouvrages, à des rapports, à des rapports de justice, de police, à des témoignages. Et on tombe un peu des nues en constatant la profondeur des liens entre presque tous les présidents américains, on va le voir à quelques exceptions près, et le milieu mafieux, sans parler aussi de toute la machine de l'État, des juges, des maires, des sénateurs, etc. Donc je voudrais qu'on tire un peu le fil de tout ça, et peut-être en commençant par une question qui doit venir dans la tête de pas mal de ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui est comment est-ce qu'on peut être sûr de ces sources ? Et je voudrais commencer par citer une phrase que j'ai trouvée dans votre livre, qui est « La question de l'invisible derrière le pouvoir n'est pas celle du complot, mais plus fondamentalement, celle de l'unité du pouvoir. Comme le rappelle Michel Foucault, les vraies relations de pouvoir sont toujours cachées, et il n'y a de complétude de pouvoir que par la reconnaissance de sa face cachée. » Donc, autrement dit, sans en étudier la face cachée, la face sombre, on ne comprend pas les tenants et les aboutissants du pouvoir. Et pourtant, on ne parle que très peu, comme vous l'avez dit, de ce qui se joue dans l'ombre. Et quand on le fait, notamment aujourd'hui, mais c'est pas nouveau, on est taxé tout de suite de complotiste. Et vous écrivez autre chose, le refus de considérer que des forces discrètes existent est tout aussi peu crédible que de leur accorder une toute puissance. Je vais commencer par cette question, comment est-ce qu'on navigue entre la naïveté et la paranoïa? Et voilà, où est-ce que est le juste milieu? Et vous en parlez au début d'ailleurs, parce que finalement c'est un sujet qui va revenir.
Oui, évidemment. Au tout début du livre, j'ai voulu déminer cette question qui est une question centrale et tout à fait légitime. Alors, il est toujours très difficile de d'écrire sur les questions criminelles, tout simplement parce que les questions criminelles, par nature, sont des questions relativement cachées et invisibles. Voilà, on ne connaît que dans l'histoire que la partie émergée des phénomènes criminels, et en particulier quand il s'agit de la mafia italo-américaine, qui, d'un point de vue sociologique, appartient non pas à la catégorie des bandes ou des gangs. La mafia italo-américaine, c'est ce qui fait sa force et sa longévité, son enracinement dans la société nord-américaine. Elle appartient à une autre sociologie, qui a été très bien étudiée, par exemple, par un grand sociologue, George Simmel, qui est la sociologie des sociétés secrètes. Donc, cette entité criminelle qui puise ses racines, on pourrait revenir tout à l'heure dans le sud de l'Italie, dans le Mezzogiorno et en particulier en Sicile, a une sociologie très particulière, donc celle de société criminelle, c'est-à-dire d'entité dont le but est de se faire oublier et de faire croire à son inexistence. Vous savez, il y a cette très jolie phrase de Baudelaire qui dit « La plus grande ruse du diable est de faire croire à son inexistence ». Bon. Voilà, bah une société secrète essaye de faire croire à son inexistence, et c'est le cas de la mafia italo-américaine. Elle vit dans le secret, dans l'invisibilité, elle essaye en permanence de passer sous le regard et sous le radar à la fois des médias et des autorités judiciaires. Donc il y a une vraie difficulté, évidemment, épistémologique, à connaître quelque chose qui, par nature, se dérobe au regard. Je fais quand même une parenthèse. La question du visible et de l'invisible, le fait de se dérober au regard de l'observateur, qu'il soit enquêteur ou chercheur en sciences sociales, c'est en fait quelque chose que connaissent tous les scientifiques. Le biologiste, l'anthropologue, le physicien est confronté à l'infiniment petit, à l'infiniment lointain, à l'infiniment étrange, et à quelque chose qui est invisible et qui se dérobe au regard. Donc j'allais dire, la spécificité n'est pas si grande que cela. Mais c'est vrai qu'il est plus facile d'observer des phénomènes criminels qui sont très visibles, par exemple les gangs de rue à Los Angeles, hein, plutôt que d'observer des phénomènes criminels qui font tout pour se faire oublier et que d'ailleurs très souvent une bonne partie des sciences sociales ont nié dans leur existence même. Voilà. Donc il y a un vrai problème de source. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas les aborder et les approcher. Vous avez rappelé que mon livre est très sourcé. Hein. Je cite absolument toutes mes sources, plus de 300 ouvrages, des dizaines de rapports, des dizaines d'articles, etc. Donc en réalité, lorsqu'on sait mener une véritable enquête, un travail d'historien, ce métier d'enquêteur, hein, le premier livre d'histoire, celui d'Hérodote, s'appelait bien L'Enquête. Quand on mène ce métier d'enquêteur, c'est-à-dire qu'on lit de manière exhaustive, aussi exhaustive que possible, les sources, qu'on retourne aux sources, très souvent des ouvrages ou des sources sont citées mais en réalité déformées. Donc quand on fait ce travail de lecture exhaustive, d'analyse critique interne et externe des documents, on arrive à recréer un récit. Puisqu'en fait, l'histoire, ça n'est jamais évidemment qu'une mise en récit, qu'un certain regard particulier sur le monde. Voilà. Alors ça, c'est pour la méthodologie. Et de ce point de vue-là, j'ai eu un comportement, j'allais dire, d'historien classique, avec évidemment une petite déformation professionnelle, un petit biais professionnel qui tient à mon métier de commissaire de police, qui fait que j'ai un regard peut-être un petit peu original sur ces phénomènes. Voilà, donc il y a une vraie difficulté méthodologique, mais en réalité, quand on s'en donne le temps, qu'on essaye de faire un travail, je le répète, exhaustif, avec un peu de distance, on peut aboutir à, j'allais dire, à approcher un peu d'un début de compréhension, je ne dirais pas de vérité, mais à approcher un certain nombre de questionnements. Voilà. Alors, pourquoi ai-je choisi ce sujet ? Il me semblait important, donc, d'une part, parce que c'est une réflexion sur les relations entre le crime organisé et la corruption, mais surtout parce qu'on a affaire à deux superpuissances. La Maison Blanche incarne, à travers les présidents, évidemment, la première puissance politique, économique et militaire du XXe siècle, et certainement encore du XXIe siècle. Et la mafia italo-américaine est certainement le phénomène criminel, le plus original et le plus étonnant qu'ait porté l'Amérique du Nord. Et on voit très bien que c'est une entité, on y reviendra certainement tout à l'heure, qui est apparue au milieu du XIXe siècle
et qui est toujours vivante au début du XXIe siècle. Combien d'institutions publiques ou privées en Amérique du Nord sont encore vivantes un siècle et demi après? Je n'en connais pas d'autres. Donc ça signifie que la mafia a une capacité d'enracinement, de mutation, d'adaptation, pour utiliser un mot à la mode emprunté à la mécanique des matériaux et à la psychologie, à une capacité de résilience tout à fait unique. Voilà. Et il me semblait évident que ces deux entités, ces deux superpuissances, avaient forcément à un moment ou à un autre entretenu des relations. Et c'était d'autant plus évident qu'il y a un mode de constitution très spécifique aux États-Unis, qui n'est pas comparable à celui de la France, un mode de constitution très spécifique des élites politiques et économiques. On pourra en parler très longuement, mais tout le monde l'a bien compris, cela tient évidemment très largement à la place de l'argent dans ce système. L'Amérique n'est pas un État-nation au sens français ou européen du terme, c'est un État-marché. Voilà. On est dans une toute autre configuration.
Ok, on va essayer de dérouler tout ça, et puis ça va être intéressant aussi d'aller dans les exemples concrets. Peut-être commencer par définir ce qu'est une mafia, en fait, parce que c'est assez étonnant. On vous entend, on a l'impression que c'est une même institution, justement, ça pourrait être comparé à une organisation qui aurait survécu depuis un siècle. Et pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement mouvant, qui est multipolaire, qui se définit... voilà, donc qu'est-ce qu'on appelle une mafia et qu'est-ce qui rend différent ce phénomène ou cette organisation d'une organisation criminelle quelconque ou autre?
Alors, vous avez raison de commencer par la question sémantique, parce qu'elle est source de beaucoup de malentendus. Alors, au départ, le mot mafia est un nom propre qui désigne une organisation criminelle très spécifique qui apparaît au milieu du 19e en Sicile, hein. Donc ça désigne quelque chose qui est très situé géographiquement et historiquement. Donc c'est un nom propre. Et puis, pour aller vite, alors le mot lui-même a une origine extrêmement débattue chez les linguistes et les politistes, on va pas rentrer dans ces considérations, mais il se trouve que ce nom propre, très rapidement, va apparaître comme étant un nom impropre. C'est-à-dire que, grâce aux révélations des fameux repentis, les collaborateurs de justice, aux États-Unis, dès les années 60, avec Joe Valachi, et en Sicile, dans les années 80-90, quand les mafieux vont commencer à parler aux juges, ils vont dire « mais vous savez, nous, on n'utilise jamais ce terme ». Ça, c'est le terme qu'utilisent les journalistes, les policiers, mais nous, on utilise un autre terme, on s'appelle « Cosa Nostra », notre chose à nous. Donc, une expression qui désigne un entre-soi social. Donc, c'est un nom propre, mais qui est en fait un nom impropre. C'est aussi un concept de criminologie que j'avais essayé de définir et de caractériser dans un livre précédent, paru aux éditions Odile Jacob, Le Monde des Mafias, où pour montrer qu'en réalité, derrière son nom propre, ce nom impropre, il y avait une catégorie criminologique intéressante, qui permettait de désigner un type très particulier d'organisation criminelle dont j'ai parlé tout à l'heure, ces organisations criminelles qui ont une sociologie de société secrète, qui ne sont pas de simples bandes. Et donc j'avais défini une dizaine de critères de ce qu'est une société secrète, et les principales sociétés secrètes criminelles, on les retrouve dans le Mezzogiorno italien, donc la Camorra en Campanie, la Drangheta en Calabre, la Sacra Corona Unita dans les Pouilles, Cosa Nostra en Sicile, et... À partir du 19e siècle, à partir du phénomène migratoire, donc de la migration de plus d'un million d'Italiens pauvres du Mezzogiorno vers les États-Unis, on va avoir un phénomène de translation vers les États-Unis, non pas de l'organisation criminelle sicilienne Cosa Nostra, mais de toute l'anthropologie, de tout le terreau social qui va permettre, autoriser à cette organisation criminelle de se recréer aux États-Unis. Voilà. Alors, le problème, tout ça en très, très grand résumé, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le mot mafia, c'était un nom propre, un nom impropre, un terme de criminologie, mais qui a été banalisé par le monde médiatique et le cinéma et qui est devenu synonyme de crime organisé. Donc aujourd'hui, on affuble du concept du terme de mafia toutes les organisations criminelles. Et même au-delà des organisations criminelles, dès qu'il y a une constitution d'un groupe. Voilà, on parle de la mafia des hormones, de la mafia des médias, enfin, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a aujourd'hui une hyper-extension du concept qui fait qu'on ne comprend plus rien. Moi, ce dont je parle dans mon livre, c'est d'une organisation criminelle très située, la mafia italo-américaine, Cosa Nostra, qui est née de Cosa Nostra en Sicile et qui réapparaît à partir du 19e aux États-Unis à travers le phénomène migratoire. Voilà. Donc moi, je ne l'utilise pas dans le sens de comme synonyme de criminalité organisée.
Oui, donc c'est une organisation avec des personnalités bien identifiées, une structure, des conventions, j'ai appris aussi, exactement, qui se réunissent régulièrement avec des codes très précis. Il y a d'autres mafias dans le monde, on ne va pas en parler aujourd'hui, on pense aux Yakuza, on pense aux triades qui ont des types d'organisations différentes, mais bon, voilà, qui sont similaires. On va rester sur cette histoire de la mafia italo-américaine et des États-Unis, et puis chacun se feront une idée, peut-être qu'on aura le temps un petit peu à la fin d'en parler, d'essayer d'extrapoler pour voir ce qui se passe ailleurs, mais je ne crois pas qu'on aura le temps. Alors, un peu d'histoire. On va se plonger, et évidemment, on va pas pouvoir parler de tous les exemples qui sont extrêmement nombreux. Donc, j'invite tout le monde à se procurer ce livre. Mais on va essayer de regarder dans les grandes lignes quels sont les faits les plus importants, les peurs les plus importantes pour comprendre justement cette démonstration que vous faites des liens profonds entre ce milieu-là de la criminalité, cette mafia et le pouvoir, donc qui est extrêmement étonnant et moi personnellement dont j'avais pas vraiment entendu parler, en tout cas pas à ce point-là. Et d'ailleurs, je crois que c'est une enquête qui n'avait jamais vraiment été faite avec cette densité, si je me trompe.
Non, exactement. Même aux États-Unis, il n'y a aucun livre qui traite spécifiquement de ce sujet. Le sujet est abordé par mille biais, mais il n'y a jamais eu de livre directement sur ce thème. Si j'étais américain, je dirais c'est l'éléphant dans la pièce, the elephant in the room. Encore aujourd'hui, la mafia italo-américaine, c'est un sujet qui fait l'objet en fait d'un très grand paradoxe, c'est-à-dire une hyper-représentation fictionnelle et cinématographique en particulier, mais c'est très souvent un phénomène d'évitement dans le débat public américain. On pourra en prendre mille exemples.
Ouais. Okay.
Donc en soi, c'est assez troublant.
Ok, donc alors aux origines, donc on est en 1890-1920, voilà, il y a 4 millions d'Italiens, qui essentiellement Italiens du Mezzogiorno du Sud, qui s'installent principalement dans trois grandes zones, qui seront les trois zones de naissance de la mafia, donc en Louisiane, autour de la Nouvelle-Orléans, sur la côte est américaine, donc la mégalopone entre New York, Boston, etc. Et puis la région des Grands Lacs, autour de Chicago notamment. Est-ce que, rapidement, vous pouvez me parler un petit peu de cette genèse, du commencement et de ce qui se met en place d'important déjà à cette époque, donc autour de ces trois pôles, et qui sera déterminant pour la suite, pour comprendre la suite?
Oui. Donc, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, donc comme vous l'avez dit, plusieurs millions d'Italiens du Sud pauvres se partent aux États-Unis pour essayer de trouver une vie meilleure. Ils vont se concentrer dans des ghettos, les fameuses Little Italy de ces grandes villes, dans lesquelles ils vont vivre dans un enfermement culturel, linguistique, anthropologique profond. Le pays leur est relativement hostile, hein. On ne peut pas dire que les WASP, hein, les blancs protestants les accueillent à bras ouverts. Et donc, ils vont vivre en circuit fermé. Et toute l'anthropologie du sud de l'Italie, qui est une anthropologie complexe, qui avait permis l'apparition déjà de la Camorra, de la 'Ndrangheta et de Cosa Nostra, va se reconstituer aux États-Unis. Donc c'est pas une translation, une importation des organisations criminelles, mais c'est en fait le terreau culturel qui va se reconstituer. Et on voit en effet des familles criminelles d'origine italienne, alors j'utilise le terme de famille non pas au sens biologique, mais au sens organisationnel de sociétés secrètes avec des processus d'initiation, qui vont apparaître donc assez rapidement. La première qui va être identifiée, et on a des preuves certaines avec des pièces judiciaires, c'est à la fin du 19e à la Nouvelle-Orléans. Et on va en avoir d'autres qui vont donc apparaître à peu près à la même période, donc sur la côte Est, en particulier à New York et à Chicago. Alors, on peut donc dire que c'est un phénomène d'importation, mais en même temps, et je renvoie là à un débat sociologique assez farouche aux États-Unis, on ne va pas revenir là-dessus, c'est en même temps un phénomène d'américanisation. C'est-à-dire que ces familles criminelles empruntant l'anthropologie italienne vont, elles, prendre l'ambiance, l'éthos purement américaine, elles vont s'américaniser, hein, et se transformer dans un processus, dans les années 20-30, assez complexe, en espèce d'entité multinationale tournée vers le profit. Voilà. Il va y avoir une espèce de bataille entre l'ancienne génération et des jeunes Turcs. Hein. La nouvelle génération, considérant que il était possible quand même de faire un tout petit peu plus d'argent en empruntant en fait les méthodes de la multinationale, de l'entreprise capitaliste, en étant un petit peu plus moderne, en jetant aux orties ou dans le caniveau des vieilles normes sur la vendetta, la vengeance, etc. Tout ça fait beaucoup trop de bruit, nuit aux affaires, et donc il fallait avoir une attitude beaucoup plus rationnelle, avec des tâches beaucoup mieux taylorisées. Voilà. Et donc on a tout un processus que je décris un petit peu dans le livre au début, et avec des figures marquantes qui vont américaniser, professionnaliser la mafia italo-américaine, entre autres Charles Lucchi Luciano et Salvatore Maranzano. Et c'est comme ça donc qu'on va voir se constituer donc des familles, chaque famille étant constituée à partir d'un processus d'initiation, de serment et pas sur une base biologique. Chaque famille aura un territoire qui va lui être désigné. Elles vont quand même bien réemprunter ou l'histoire romaine, puisqu'en fait chacune des familles est structurée sous la forme d'une légion romaine avec un chef, un sous-chef, des capitaines et des soldats, hein, parce qu'il se trouve que Salvatore Maranzano était un intellectuel et un grand lecteur des auteurs romains. Et puis, la petite couche supérieure va être apportée par Charles Lucchi Luciano, qui lui va se dire, mais c'est bien d'avoir des familles dispersées sur le territoire, mais il faut qu'on ait un petit peu d'organisation, il faut qu'on ait un espèce de conseil d'administration, un organe non pas de direction, mais de régulation, et ça va être la fameuse commission. Voilà. Donc ça, c'est la mafia italo-américaine moderne.
Ouais.
Oui, pardon.
Non. Là, on est à quelle époque?
On est dans les années 20-30.
Les années 20, oui.
Dans les années 20-30. 20-30. Et donc ça, c'est une révolution managériale, pour emprunter le langage contemporain. Et puis, au moment où il y a cette révolution managériale, alors évidemment, il y a une interaction, il y a un phénomène politique, politico-criminel, c'est évidemment la prohibition que tout le monde connaît. En 1919, le Congrès vote le Volstead Act, qui interdit donc la production et l'importation d'alcool, qui est une loi purement puritaine, hein, qui a été votée à la demande et sous le poids du lobbying de deux univers très différents. D'une part, les femmes qui ne voulaient plus avoir d'hommes alcoolisés et ivres qui dépensaient l'argent de la famille et qui les battaient. Et d'autre part, le poids du grand capital qui, au nom de la productivité de la machine capitaliste, voulait avoir des ouvriers en meilleure santé, qui ne soient pas donc complètement alcoolisés. Donc on a cette loi puritaine qui va perdurer jusqu'en 1933, mais inapplicable, inapplicable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, par cette prohibition, cette interdiction, on va créer, le Congrès crée un peu malgré lui un vaste marché criminel, hein, qui va permettre aux grandes organisations criminelles, et en particulier à la mafia italo-américaine, de disposer subitement d'un capital, d'une accumulation de capital, comme dirait Karl Marx, absolument fantastique. Et cette accumulation de capital va doter la mafia italo-américaine d'un capital économique et social nouveau, qui va lui permettre évidemment de s'enraciner profondément dans la vie économique et syndicale du pays, et puis surtout de pouvoir parler maintenant d'égal à égal avec le pouvoir politique.
Donc on a un tournant, puisque effectivement c'est là que qu'on commence à avoir des noms de criminalité, donc qui ne s'appellent pas encore mafieux, puisque la mafia n'est pas encore identifiée à l'époque, hein, il faut aussi remettre dans le contexte, on va en parler. Avec les Al Capone, avec les Lucchi Luciano, il y a aussi la montée du fascisme en Italie qui profite à la mafia.
Alors voilà, oui, vous avez raison de rappeler ce troisième facteur. On a donc la révolution managériale, on a la prohibition, et puis il y a un espèce d'effet d'aubaine supplémentaire qui est le fascisme en Italie. Le parti fasciste prend le pouvoir en Italie en 1922. Et assez rapidement, Mussolini va se rendre compte qu'en Sicile, c'est pas le parti fasciste qui dirige, il y a un contre-pouvoir. Voilà. Le fascisme, c'est fondamentalement un étatisme. Et donc, comme le parti fasciste ne supporte pas les contre-pouvoirs, les oppositions. Et donc, se rendant compte qu'en réalité, ceux qui dirigent, c'est le monde de l'ombre, le monde de la criminalité. Mussolini, non pas pour des raisons donc morales, hein, mais pour des raisons tout simplement politiques, envoie sur place un préfet autoritaire, Cesare Mori, qui va être surnommé le préfet de fer et qui, avec des méthodes arbitraires, arrestation arbitraire, détention arbitraire, torture, etc., va mener une lutte anti-mafia relativement efficace de 1922 à 1927. Et donc, ça va provoquer la fuite vers les États-Unis de plusieurs centaines de mafieux qui vont en quelque sorte alimenter la machine, redonner du sang neuf à la machine de la mafia italo-américaine aux États-Unis qui était en train de se constituer.
Donc on a une époque, là, début des années 30, fin des années 20, où la mafia est déjà bien structurée, notamment sur dans ces trois grandes régions qu'on a citées, organisée avec des structures qui coopèrent entre elles, avec maintenant un pouvoir financier assez important. Et puis il y a des villes qui sont clairement totalement corrompues. Et on s'attaque à l'ambition présidentielle, on va dire. Donc Roosevelt est élu président en 1932. Et c'est assez étonnant parce que l'histoire nous présente cet homme-là comme presque comme un chevalier blanc en fait qui se bat au service de la veuve et de l'orphelin du petit peuple contre les méchants financiers donc qui ont provoqué la crise de 29. Et certainement c'est pas tout à fait vrai. Il y a plusieurs aspects dans la personnalité de Roosevelt dans ce qu'il a fait. Mais ce que vous dites dans votre livre, c'est que Roosevelt aurait bénéficié clairement du soutien de la mafia pour son élection, avant, dans un second temps, de se retourner un peu contre eux, de les trahir. Et que notamment à cette époque-là, la mafia est très implantée au sein du Parti démocrate. Qu'est-ce qui se joue de particulier dans cette naissance, justement, de cette espèce d'ambition politique de la mafia au début des années 30, et comment est-ce que ça se passe avec Roosevelt?
Alors, on va essayer de se montrer juste et équilibré à l'égard du président Roosevelt. Il faut replacer tout ça dans le contexte de l'époque. La vie politique américaine, depuis le 19e, depuis les origines, est marquée par les fraudes et la violence, voilà, qui ne sont pas le fait uniquement de la mafia italo-américaine, loin de là, hein. C'est le pays du capitalisme sauvage, de la corruption, du big business corrupteur, de la criminalité en col blanc, etc. Mais il se trouve qu'au niveau local, beaucoup de villes, en effet, sont extrêmement corrompues. La machine démocrate de la ville de New York, qui s'appelle Tammany Hall, est une organisation ultra corrompue. Et d'ailleurs, on voit très bien, ça a été très bien montré dans le film de Scorsese, Gangs of New York, comment le crime organisé est constitutif de la vie politique américaine. Donc en fait, Roosevelt, j'allais dire, fait de la politique dans un univers, dans un contexte qu'il n'a pas créé. Hein, c'est celui d'une ville de New York et d'un pays où la vie politique est marquée, je le répète, par la corruption, la fraude et la violence. Bon. Beaucoup de villes sont totalement aux mains des mafieux. On pourra parler tout à l'heure de Kansas City, etc. Roosevelt sait très bien que une grande partie des Italo-Américains à l'époque votent démocrate, évidemment, mais il sait également que le crime organisé et la mafia, dans une logique capitaliste, est capable de mobiliser, pardon, dans une logique clientéliste, est capable de mobiliser une grande partie de ses votes. Donc, que fait la mafia au moment donc où elle est très organisée, où elle est devenue très riche? Elle comprend très bien que le prochain président des États-Unis, en 1932, ne sera pas un républicain, mais sera un démocrate, pour une raison toute simple que vous avez rappelée, c'est la crise de 1929. Les républicains sont au pouvoir, ils ont failli dans la crise, donc mécaniquement, c'est un démocrate qui arrivera au pouvoir. Donc là, la mafia, tout en misant aussi un petit peu sur le républicain au cas où, que fait-elle? Au sein du Parti démocrate, elle regarde qui seront les candidats pour l'investiture, voilà, pour la convention démocrate. Et il y a deux hommes, il y a d'une part Roosevelt et d'autre part Al Smith. Comme ils le font à chaque fois, ils vont miser sur tous les chevaux en même temps. Donc ils vont dialoguer avec les deux parties, et en particulier ils vont dialoguer avec Roosevelt. Et Roosevelt n'a pas beaucoup le choix, en fait, parce qu'il sait très bien que la mafia ou que les représentants de la mafia peuvent mobiliser donc des électeurs du Parti démocrate, et donc ils font partie du paysage. Voilà. Donc il n'est pas plus malhonnête ou pas moins malhonnête que d'autres, il a un comportement rationnel et cynique, et il fait ainsi. Et les mafieux donc vont voir Roosevelt, en fait, un représentant de Roosevelt, et dans une logique clientéliste, ils lui disent, voilà, nous, on est prêt à vous apporter un bloc de voix lors de la convention, à voter pour vous, mais en échange, il faudra nous rendre un service. Et à l'époque, il y a une enquête dont je parle un petit peu dans le livre, qui est l'enquête d'un juge, du juge Seabury, qui était en train de mettre à mal les mafieux de la ville de New York et leurs complices politiques. Voilà. La convention a lieu, et lors de la convention, les mafieux vont se répartir la tâche. Certains vont tenir la main de Roosevelt, d'autres vont tenir la main de Al Smith. Il y a plusieurs tours à la convention. Et puis, au moment où, visiblement, la convention va opter pour Roosevelt, il leur apporte les voix dont il a besoin pour gagner. Du moins, les mafieux en ont-ils la conviction? Et du moins, souhaite-t-il partager par la suite cette conviction auprès de Roosevelt? Bon, voilà. Alors, est-il redevable? Peut-être, peut-être pas. Mais en tous les cas, les mafieux ont eu cette conviction d'avoir été déterminants dans la victoire lors de la convention, donc du Parti démocrate, en faveur de Roosevelt. Et ensuite, Roosevelt allait gagner mécaniquement face au candidat républicain, évidemment. Voilà. Donc, les mafieux vont considérer que ils ont passé un pacte et que Roosevelt a une dette.
Et c'est ce qu'on verra d'ailleurs par la suite, en fait, à partir du moment où les mafieux pensent qu'on a une dette envers eux, ça change la donne. Il y a ce rapport, en fait, c'est-à-dire que tant qu'on ne traite pas avec la criminalité avec eux, a priori, on est un petit peu en dehors des clous. Enfin, on est dans les clous, ça dépend dans quel sens on se passe.
On est dans les clous.
Mmh. Et ça change la relation à partir du moment où il y a une espèce de sentiment de dette. Alors, qu'est-ce qui se passe sous Roosevelt? Comment les mafias prolifèrent? Et notamment durant la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi un phénomène que vous décrivez qui est intéressant, qui est qu'à un moment donné, l'État américain s'appuie, au moins en partie, sur les mafias. D'une part, pour ce qui va être le débarquement en Italie, puisqu'il y a des liens qui sont faits. Et puis, d'autre part aussi, pour la gestion, si j'ai bien compris, du port de New York, en fait, pour que les choses se passent bien et que voilà, qu'il n'y ait pas de désordre entre guillemets. Donc il y a une logique qui se met en place où l'État a des relations, il y a des échanges de communication entre le milieu mafieux de manière régulière et certaines personnalités politiques, et il y a une forme de quoi, de travail en commun parfois, où c'est déjà la guerre entre les deux, voilà, où on en est.
Alors, tout est toujours évidemment complexe, mais que se passe-t-il lorsque les États-Unis rentrent en guerre après donc Pearl Harbor, après décembre 1941, il se pose une question absolument cruciale pour l'État fédéral américain et en particulier pour les services de renseignement de la Navy, c'est la sécurité des ports et des docks. Pourquoi ? À l'époque, comme d'ailleurs aujourd'hui, 80 à 90% du commerce mondial se faisait par voie maritime. Donc, si vous vouliez que les États-Unis soient toujours ravitaillés et que les États-Unis eux-mêmes continuent de ravitailler, entre autres l'Angleterre, il fallait assurer donc une totale sécurité sur les ports et les docks américains. Donc, il n'y a pas d'espionnage, pas de sabotage. Et d'autre part, si vous vouliez envisager un début de débarquement en Sicile et en Afrique du Nord, il fallait évidemment, à nouveau, qu'il n'y ait ni sabotage, ni espionnage dans les ports américains. Et les services de renseignement de la Navy qui ont cette responsabilité, donc la sécurité des docks, ce sont des gens rationnels, comme toujours, dans les services de police et de renseignement. Leur question est, qui contrôle réellement les ports et les docks? Eux, ils le savent très bien, c'est la mafia italo-américaine. Voilà, à travers les syndicats, le syndicat des dockers, les longshoremen. Et à cette époque, le chef de la mafia italo-américaine, Charlucci Luciano, est emprisonné pour une affaire de proxénétisme. Donc, les services de renseignement de la Navy vont voir le procureur de New York, qui leur dit, bah oui, il faut aller voir Charlucci Luciano au nom de l'intérêt national. Et donc, il va y avoir toute une histoire assez longue de dialogue via des avocats entre Charlucci Luciano et les services de renseignement de la Navy. Et ces négociations, ces tractations vont être accélérées par un événement qui est l'incendie d'un navire, le Lafayette, qui était dans le port de New York. Et à l'époque, tout le monde a cru, et la mafia a tout fait pour que tout le monde pense en effet, que le navire avait fait l'objet d'un sabotage. Donc effet d'aubaine, pour inciter évidemment à ce que l'État fédéral se jette dans les bras de la mafia italo-américaine. En tous les cas, une vraie collaboration va débuter entre la mafia et les services de renseignement de la Navy. On le sait aujourd'hui à travers des documents qui ont été déclassifiés en masse, donc l'histoire est maintenant bien connue. Elle a été niée évidemment pendant très longtemps, mais aujourd'hui l'histoire est bien connue. Et en effet, on peut constater que les docs vont être d'une totale sûreté, sécurité. Et ça va permettre donc à la Navy ensuite de pouvoir envisager donc le débarquement en Sicile et en Afrique du Nord en toute sérénité. Il faut tordre le cou à une légende qui a souvent été rapportée dans beaucoup de livres d'histoire et qui est fausse, l'idée selon laquelle il y aurait eu un accord entre l'État fédéral américain et la mafia en Sicile lors du débarquement. Ça n'est absolument pas avéré. En revanche, ce qui est bien avéré, cette collaboration pour la sécurité des docks à New York. Juste un petit point que je rajoute, et un point qui était très peu connu, que j'ai exhumé dans un ouvrage, c'est que la question était de savoir si les services de renseignement de la Navy avaient rendu compte à un niveau, au niveau politique, au niveau de Roosevelt. Et je rapporte au moins un témoignage qui laisse à penser, en effet, que Roosevelt était au minimum au courant de ce pacte avec le diable, mais nécessité par la lutte contre le nazisme et le fascisme.
Donc c'est intéressant parce qu'on voit le contexte justement dans lequel se fait la politique à l'époque. Ce que j'allais dire, c'est pour l'anecdote, la FIAD, je crois que c'était le paquebot Normandie qui a été remis en arrière.
Pardon, Normandie, excusez-moi.
Non, mais il a été renommé en la FIAD, je crois. C'était pareil.
Oui, exactement, c'est ça, voilà.
Et avant de partir justement pour charger des troupes, il a brûlé. Désolé pour cette digression. Alors ensuite, c'est Truman qui devient le président des États-Unis. Mais avant de parler donc du successeur de Roosevelt à sa mort en 45. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur quelque chose que vous avez cité, qui est la ville de Kansas City, pour parler notamment de la famille Pendergast, qui illustre comment, en fait, certains territoires américains, à l'époque, étaient totalement contrôlés par des familles entières, par des familles corrompues, en lien direct avec la mafia. On a une espèce de synergie, on ne sait plus justement où la mafia s'arrête, où elle commence à ce niveau-là. Mais pourquoi Kansas City? Et à quoi ça ressemblait une ville hors de l'état de droit, entre guillemets, en quelque sorte?
Alors, il faut être clair, hein, l'état de droit existait relativement peu aux États-Unis, quelle que soit la partie du territoire. Donc, Kansas City, capitale du Missouri, est à l'époque une des villes les plus corrompues, les plus dangereuses des États-Unis. Au moins aussi corrompue et dangereuse que la Louisiane ou Chicago. Alors, vous avez à Kansas City un modèle idéal typique, comme dirait Weber, d'une symbiose entre, d'une part, une machine politique corrompue, la machine démocrate, dirigée par une famille, les Pendergast, et d'autre part, une famille criminelle de la mafia italo-américaine qui, au début du XXe, est dirigée par un certain Lanzia, John Lanzia. Et donc, quand je parle de relation symbiotique, c'est-à-dire que c'est une relation clientéliste, les Pendergast vont petit à petit dominer la ville, puis ensuite l'ensemble de l'État, par une politique clientéliste, des achats de voix, de services rendus, mais aussi par la fraude et la violence. Les élections sont gagnées aussi par la fraude et la violence, en ayant comme homme de main donc les mafieux italo-américains, qui eux, en contrepartie, bénéficient d'une absolue impunité pour l'ensemble de leurs activités criminelles. Donc c'est un biotope très très spécifique dans lequel ce que l'on appelle nous aujourd'hui l'état de droit, c'est le respect du droit, des libertés publiques, n'était absolument pas assuré. Et c'est donc dans ce contexte, dans cet environnement très particulier, qu'un jeune homme sorti de la guerre, un certain Harry Truman, décide de faire de la politique. Voilà. Alors l'homme a été successivement commerçant, agriculteur, investisseur, sans vraiment grand talent. Et puis, il se dit que le meilleur moyen de progresser dans la société, c'est de faire de la politique. Donc, voilà. Donc, il va se rapprocher de la famille Pendergast, de Tom Pendergast, qui voit en lui un homme parfait pour asseoir l'emprise de la machine démocrate, car il se trouve qu'Harry Truman a beaucoup de qualités, c'est un homme du monde rural, il est à la fois baptiste, franc-maçon, il a une image d'honnête homme, et il se dit, cet homme va nous servir, il va avoir une fonction de juge de comté, qui est en fait une fonction paramunicipale, qui gère tout un tas d'affaires municipales, et donc pendant une vingtaine d'années, Truman va faire cette carrière dans ce milieu totalement corrompu.
Et c'était finalement aussi quelque chose d'assez commun pour les puissants, pour les mafieux, de choisir des chevaux finalement sur lesquels miser, en essayant d'en miser sur plusieurs chevaux qui c'est pas que les démocrates aussi, il peut y avoir des personnes du camp d'en face, c'est pas politisé.
Il n'y a pas de préférence. Oui. Ah non, mais les gangsters de manière générale n'ont pas d'opinion politique, hein, pour eux, que ce soit des démocrates ou des républicains, c'est totalement indifférent. Alors, dire qu'ils ont musé sur Truman parce qu'ils avaient anticipé le fait qu'un jour il serait président des États-Unis, évidemment non. Mmh. Il se trouve simplement qu'à un moment donné...
On mise sur des personnes qu'on estime à haut potentiel.
Voilà, on mise sur tout un tas de gens et puis je ne suis même pas certain qu'ils l'avaient perçu comme étant à haut potentiel, mais à un moment donné, ils ont des cartes et ils utilisent ces cartes. Et donc, c'est dans cet univers totalement corrompu que Truman va faire sa carrière. Jusqu'à être propulsé sénateur et parvenir par un certain hasard historique sur le ticket présidentiel, donc avec Roosevelt, lorsque Roosevelt voudra se faire réélire pour la quatrième fois en 1944. Voilà.
Et alors, donc après, Truman est présenté dans votre livre, alors d'abord comme un bon président. Historiquement, je crois que c'est quelqu'un qui a plutôt la côte, mais il est présenté comme un vassal de la mafia, avec des mafieux, dont j'oublie le nom, qui disaient « It's our boy », il est avec nous, il est à nous, comme ça se disait dans le milieu. Et de fait, en fait, on constate que Truman, durant son mandat, a vraiment laissé tranquille les mafieux, a tout fait même pour ralentir certaines procédures judiciaires qui avaient été mises en place par le Congrès pour protéger certains de ses amis corrompus, et a même nommé un juge à la Cour suprême, qui est un personnage assez douteux, je crois, Tom Clark. Est-ce que vous pouvez parler de cette période, qui est une espèce de période bénie pour le monde mafieux, si j'ai bien compris, et à quel point est-ce qu'on peut dire que Truman était sous influence?
Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut être un très grand président en politique intérieure et en politique extérieure et être corrompu, hein, ça n'est pas antinomique. Bon. Alors, l'élément déterminant, c'est quand Truman est choisi pour être vice-président, quand Roosevelt est réélu en 1944, hein, pour la quatrième fois, ceux qui doivent savoir, on n'est pas encore dans la société de l'information et de la communication, mais ceux qui doivent savoir savent qu'il est gravement malade et que l'homme qui sera choisi sur le ticket présidentiel comme vice-président sera le futur président quelques mois plus tard. Vous savez ce qu'on dit aux États-Unis, le vice-président est un battement de cœur du président. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, le choix de Truman comme vice-président, c'est en fait un choix présidentiel. Et là, je décris assez longuement dans le livre comment l'intéressé a été choisi sur le ticket présidentiel. Il l'est en fait par une convergence d'intérêts, à la fois du monde d'en haut et du monde d'en bas, d'individus qui souhaitaient avoir un homme à leur main et redevable. En gros, il a été le choix de tout un tas de tout un monde corrompu, très proche de la mafia italo-américaine. Et en effet, la présidence Truman va être marquée par tout un tas d'affaires de corruption, et en particulier par certainement un des plus grands scandales de corruption de l'histoire du XXe siècle aux États-Unis, là encore que je raconte assez longuement, c'est ce qu'on appelle l'affaire Bioff. En ultra résumé, la mafia italo-américaine raquetait les grands studios d'Hollywood, ce qui leur apportait beaucoup d'argent, jusqu'au jour où le racketteur en chef, William Bioff est interpellé en compagnie de quatre mafieux majeurs de la famille de Chicago qui vont être emprisonnés. Et là, je raconte tout le processus complexe et subtil par lequel, et de manière tout à fait illégale, la mafia va obtenir la libération anticipée de ces quatre mafieux et manifestement, au final, grâce à des décisions politiques qui ont été prises par l'entourage de Truman, même si on ne peut pas le prouver, certainement par Truman lui-même, pour faire libérer par anticipation ces mafieux. Voilà.
Donc on est sur une période où c'est plutôt tranquille pour la mafia. Je voudrais faire c'est pas une digression parce que c'est quand même assez central dans votre livre, mais qu'on parle aussi de ce qu'on appelait les syndicats des Teamsters, qui sont une pièce importante en fait du puzzle dans ce jeu politique américain, puisque justement ce syndicat-là est un syndicat extrêmement puissant, qui est une vraie force politique, qui a une force de blocage notamment, qui est extrêmement influente aux États-Unis, avec un patron qui est resté à la tête des Teamsters pendant des années et des années, et qui est aussi totalement corrompu, qui a des liens avec la mafia, voire des liens avec d'autres types de criminalité. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler de cette pièce-là du puzzle, pareil, dont on n'entend pas forcément parler, quand on pense pas à ce côté-là, quand on pense au syndicat, forcément.
Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. Si vous voulez connaître la suite, je vous invite à cliquer sur l'épisode numéro 2.